Bon, j'espère qu'il fera beau cette semaine. J'espère que Stéphanie ira mieux rapidement. J'espère que les deux cours de formation que je dois donner aux chauffeurs de camions cette semaine se passent mieux que la dernière fois, quand ils ont voulu me tuer à la fin du cours. J'espère que j'arriverai à l'heure demain matin quand je vais à mon rendez-vous important. J'espère. C'est un peu comme le mot j'aime. J'aime le chocolat, j'aime la glace, je t'aime, chérie. Mais le mot espérance, c'est quand même un mot très important. Et je crois qu'une des manières de voir l'importance de ce mot, c'est de mettre l'opposé, c'est-à-dire quand quelqu'un dit que c'est sans espoir. Par exemple, si c'est le LHC, on dit que c'est sans espoir. C'est grave, mais c'est pas trop grave. Mais quand le médecin, je sais pas s'ils le font comme ça, mais s'il sort et il dit « Je suis désolé, c'est sans espoir », waouh, c'est un sens qui est quand même beaucoup plus fort. Ou dans une relation de couple où l'un des deux dit « C'est sans espoir », alors là, nous ressentons tout le poids de vivre une vie sans espérance ou sans espoir. Dans les Écritures, l'espérance joue un rôle essentiel. Vous savez, il y a trois choses, n'est-ce pas, que Paul dit. Il y a quoi? Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Et dit au-dessus de tout, c'est l'amour. Mais c'est quand même une colonne de la foi chrétienne, c'est l'espérance que nous avons. Et au niveau théologique, le mot veut tout simplement dire l'attente de quelque chose de bien. Okay? C'est l'attente qu'il y a quelque chose qui nous attend, que Dieu a préparé pour nous à travers toutes choses, et donc nous avançons avec cette certitude. Le vieux prédicateur, j'ai entendu dire que c'est la conviction de bonnes choses qui vont se passer. Et dans la Bible, le mot pour l'espoir, l'espérance, ou de dire mettez votre espérance en ceci et là, n'est jamais un sentiment. Ce n'est jamais une émotion. C'est toujours une réalité, c'est toujours quelque chose de concret qu'on attend, mais qui va ensuite former nos sentiments. Ce n'est pas un sentiment qui donne lieu à quelque chose de concret, c'est quelque chose de concret, c'est-à-dire un avenir que Dieu prépare, qui donne lieu à un sentiment. Et cette attente de quelque chose de bien dans l'avenir est basée sur une promesse. Une promesse, et c'est aussi basé sur des choses du passé que nous avons pu entendre et croire, et aussi des choses que nous avons vues de nos propres yeux se passer dans nos vies. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ennemis de l'espérance. Parfois, les circonstances difficiles peuvent essayer de noyer notre espérance. Parfois, des catastrophes par lesquelles les gens peuvent passer, ceux-ci peuvent étrangler l'espérance qu'ils ont. Il y a les tempêtes qui viennent dans la vie, il y a des souffrances et il y a aussi des persécutions. Et pour le passage que nous allons regarder aujourd'hui, ce qui menace de tuer leur espérance, c'est la persécution injuste qu'ils subissent à travers soit le gouvernement romain, soit à travers des juifs qui n'ont pas accepté le Messie. Et donc, je vais vous demander de chercher dans vos Bibles Hébreux chapitre 6, les versets 9 à 20, pour explorer ce sujet de l'espérance. Donc, Hébreux chapitre 6, les versets 9 à 20. Vous vous souvenez que la semaine passée, l'écrivain aux Hébreux a parlé assez hardiment à ses chrétiens pour leur rappeler qu'il y a un jour qui vient et qu'il faut être préparé pour ce jour. Et nous nous souvenons de cet appel qu'il donne en disant, si vous avez donc renié le Christ, vous êtes quelqu'un qui, dans un sens, recrucifie ou met en honte notre Seigneur Jésus, l'humilie. Mais ici, il va dire, mais je sais que vous n'êtes pas comme cela. Et donc, on est au Hébreux chapitre 6, les versets 9 à 20. Je prends le temps de lire ce passage. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un autre plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que, par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. J'aimerais partager cette chose que ce passage nous révèle concernant l'espérance. Cette chose que ce passage nous... Et puis, j'ai choisi 7, on aurait pu peut-être choisir 13, on aurait pu choisir que 3, mais 7, c'est un chiffre complet. Et donc, on va rester avec ça. Plus, j'ai de la peine à compter jusqu'à 8 parfois. Donc, on y va. Okay? J'aimerais bien que vous voyez la première chose qu'il montre, c'est qu'il dit qu'ils ont une espérance commune. Ils ont une espérance commune. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'à cette église, il utilise le « vous », n'est-ce pas? Et il parle à chacun d'eux. Et il dit que Dieu a préparé quelque chose pour eux ensemble. Ici, il parle de cette idée de vivre à ce que Dieu a préparé pour eux. Nous nous souvenons que dans Éphésiens chapitre 4, il dit il y a un seul Père, il y a un seul Seigneur. Il dit il y a une seule foi. Il dit il y a une seule espérance. Une seule espérance. Et c'est cette espérance que nous partageons tous. Cette espérance qui, parmi d'autres choses, nous unit. Et l'espérance que nous avons, évidemment, est la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu, c'est de vivre dans sa présence, c'est la rédemption de nos corps pour la vie éternelle. L'auteur a déjà parlé de cela quand il a parlé de notre vrai repos avant, d'un sabbat qui était préparé pour chacun qui est en Christ. Les Juifs de l'Ancien Testament avaient le septième jour, le samedi, qui était pour eux un sabbat et un jour de repos. Après, Dieu leur a offert le pays de Canaan comme un repos. Mais nous savons qu'il y en avait qui ont refusé d'entrer dans ce repos-là, c'est-à-dire Josué n'a pas pu les amener jusqu'à ce repos parce qu'il y en avait qui ont renoncé à cela. Et puis, finalement, nous savons que Jésus devient notre repos. Quel céleste repos nous avons en Christ et nous attendons tout ce qu'il a préparé pour nous. Dans un monde individualiste où nous croyons que chacun a un destinée qui est différent. Nous avons quelque chose d'ici qui dit nous avons une histoire commune en Christ Jésus qui célèbre bien sûr nos différences, mais qui nous amène vers un seul but, c'est-à-dire de vivre éternellement avec notre Dieu. Nous sommes appelés à une espérance commune et à compter les uns sur les autres pour arriver à notre vrai repos, de compter les uns sur les autres. Donc ça, c'est la première chose que nous remarquons, que nous avons donc une espérance commune. Deuxième chose, c'est notre espérance est basée sur les actions passées d'un Dieu fidèle. L'espérance est basée sur les actions passées d'un Dieu fidèle. J'ai un ami qui me dit souvent, okay, je serai là, okay, à tel ou à tel moment. Et souvent, en discutant ensemble, on est là en train de boire un café et tout, il dit, je serai là à tel et tel moment, je serai présent, ok? Il dit qu'il sera disponible et que je peux sûrement pouvoir compter sur lui. Mais je ne le crois jamais. Pourquoi? Parce que son passé m'a montré qu'il n'est pas fiable. Maintes fois dans le passé, il a dit, mon ami, je serai avec toi, on va se rencontrer, je vais passer. Et puis, il ne passait pas. Parfois, il y avait un coup de téléphone avant, mais souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, quand il me dit maintenant, oui, je serai là, j'y crois pas trop. En lisant les psaumes, une des choses remarquables que le peuple, nous trouvons, c'est que leur peuple réagit toujours avec un étonnement et presque une consternation quand Dieu ne répond pas à leurs prières. Que le peuple regarde Dieu et dit, mais pourquoi tu n'agis pas? Si on avait l'habitude d'avoir un Dieu qui n'agit pas, on ne serait pas en train de dire, mais pourquoi tu n'as pas agi cette fois-ci? Puisqu'il y a toujours, Dieu a toujours été fidèle et présent dans le passé, on attend que cela soit le cas pour l'avenir. Vous savez qu'il y a Dieu, quand nous lisons les psaumes, quand nous lisons ce qu'il a fait dans la vie de Jésus, quand nous lisons ce qu'il a fait dans l'Église, quand nous lisons ce qu'il a fait dans la vie de ses saints, nous rendons compte que Dieu a une histoire et il le vit. Et notre espérance est posée sur un fondement solide qui est Dieu à l'œuvre dans le passé. Puis, troisième chose que nous remarquons, c'est que notre espérance est basée sur la personne de Dieu fidèle. La personne de Dieu fidèle. Dans notre texte, il fait une promesse à Abraham. Okay? Il jure par lui-même en donnant ses promesses à Abraham. Okay? Bon, on sait bien que Jésus, dans le sermon sur la montagne, il a dit « Ne jurez pas ni sur ta tête, ni sur le temple, ni sur l'or, etc. » Parce que les gens, ils juraient tout le temps parce qu'ils ne faisaient jamais ce qu'ils devaient faire. Et donc, on croyait que s'ils disaient « Ah, si je jure sur ça, ça veut dire que je viens. Si je dis « Ah, je jure sur ça, ça veut dire que je ne viens pas. Si je jure sur le tombeau de ma mère, ça veut dire que je viens. » Mais si je jure sur les fleurs, sur le tombeau de ma mère, ça veut dire que je ne viens pas. C'était vraiment des choses comme cela. Et donc, on ne jure pas parce que le chrétien, son oui, c'est quoi? Oui, et son non, c'est quoi?
Non.
C'est non. Et donc, c'est pour cela qu'on ne jure pas. Mais notons bien, quand Dieu a fait une promesse à Abraham, il dit, il a juré. Okay? Il a juré par lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que lui. Et Dieu entre en alliance avec lui, et même s'il avait été largement suffisant pour Dieu de simplement promettre, de dire à Abraham, « Ah ouais, je te donnerai un grand descendant, je te donnerai des enfants, je te donnerai un pays », même si c'est le cas, de dire la vérité, toute la vérité, et de rien que la vérité, il jure par lui-même. Le Dieu qui ne ment pas. Est-ce que vous avez souligné cela dans votre Bible? Il dit, c'est le Dieu qui ne ment pas. Et là, il ne ment pas en disant qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Quand nous lisons des promesses, n'oublions pas que nous avons comme Père le Dieu qui ne ment pas. Et quand Dieu donne sa parole, c'est une garantie fiable. En Suisse, je crois que c'est 2 ans, les garanties. Okay. Pour Dieu, c'est l'éternité. Hein. Quatrième chose, l'espérance est un moteur qui nous encourage à faire de bonnes œuvres. L'espérance est un moteur, c'est un stimulus, c'est une turbine qui nous encourage à faire de bonnes œuvres. J'aimerais juste vous montrer ce passage, donc le verset 10, on va relire le verset 10. Hébreux chapitre 6, le verset 10 à 12. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Savoir qu'il y a un repos, que nous vivons la résurrection un jour dans la présence de Dieu, ces choses doivent nous encourager à avancer sur notre chemin avec Dieu et à marcher avec empressement. » Vous voyez cela? Il dit, je veux que vous marchiez avec empressement. Et quand vous allez en ville avec moi, okay, et vous allez à pied avec moi, parce que c'est comme cela que je me rends en ville, je ne suis pas très empressé, c'est-à-dire, je n'ai pas hâte, je marche normalement pour le faire. Mais marcher avec Stéphanie, c'est marcher avec empressement. Il faut aller plus vite pour être avec eux. Et vous savez, parfois, on a parfois des discordes là-dessus, mais on marche ensemble et je vois que son pied est juste comme cela, plus loin que moi. Donc j'essaie de rattraper Stéphanie et chaque fois que je rattrape, elle accélère. Et donc je commence à faire, puis elle accélère. La seule fois que c'est pas le cas, si il fait très très froid et à ce moment-là, je marche plus vite qu'elle pour rentrer à la maison. Mais notons bien, il dit, puisque nous avons une espérance, nous avons cette empressement d'aller en avant. Nous voulons faire de bonnes œuvres. Et mon texte dit, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants. Vous avez ce mot, quelque chose comme cela? C'est mon espérance, wow, c'est bien. Okay. C'est pas ça. C'est, j'ai une espérance et donc ceci me donne de l'énergie à faire des choses. Et après tant d'années, comment faire pour garder du zèle? Comment est-ce que nous pouvons avoir de l'empressement? Bon, le prédicateur, il pourrait parler de l'enfer. Okay? Et puis, wow, ça va chauffer les choses et puis on va aller servir les gens. Okay? On pourrait faire comme cela. Pourquoi pas? On sait que l'enfer, la séparation de Dieu, est une réalité. C'est quelque chose, on pourrait parler de la reconnaissance des gens que nous allons servir. Oui, c'est pas mal, sauf s'ils ne disent pas merci. Ou on pourrait parler de cette espérance que nous avons, de savoir que Dieu prépare quelque chose pour nous, nous aide à vivre pour l'éternité. Juste imaginons, si au ciel, où sera le ciel, je ne sais pas, mais si au ciel, nous devons servir Dieu. Okay? Si nous n'avons pas passé notre vie à nous entraîner à servir Dieu, peut-être l'enfer sera le ciel, parce qu'on n'a pas appris à servir. Peut-être ce qu'il faut penser, c'est qu'on s'entraîne maintenant à servir pour vivre avec Dieu. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. L'espérance est suivie par quoi? Il dit en suivant dans l'étroite voie. Et donc cet amour, cette espérance nous fait aller en avant de cette manière. Et c'est pas si vous êtes au courant, mais il semble que les bonnes œuvres ici de cette église, c'était de visiter les chrétiens qui étaient en prison et d'exercer l'hospitalité, probablement à des gens qui n'avaient pas de quoi. Hospitalité dans les Écritures, vous savez le mot, n'est-ce pas? C'est accueillir l'étranger. Okay? C'est accueillir l'étranger. Bon, cinquième chose, c'est évidemment l'espérance se focalise sur l'avenir. L'espérance se focalise sur l'avenir. Le texte parle d'un héritage. Et cet héritage qui est là, évidemment, c'est la vie éternelle. Pour Abraham, pour lui, cet héritage, c'était une descendance et finalement un pays. Et nous savons que lui, il a reçu son héritage quand son fils Isaac est né de sa femme Sarah. Et donc, il a reçu au chapitre 6, le verset 15. Mais quand vous lisez soigneusement les Hébreux, vous arrivez au chapitre 11. C'est le chapitre de la foi, vous vous souvenez, la Bible de la foi? Et puis, il parle d'Abraham, il parle de Sarah, il parle d'Isaac, il parle de Jacob, il parle de Joseph, il parle de ces personnes-là. Et puis, au verset 13 de chapitre 11, il dit, « Mais il ne l'a pas reçu. » Mais il ne l'a pas reçu. Okay? Il l'a salué de loin. Okay? Donc, comment est-ce qu'il a oublié ce qu'il a écrit au chapitre 6? Il dit, il a reçu. Et puis au chapitre 11, il a oublié, oups, et puis il n'avait pas d'éditeur qui l'a aidé à le corriger. Je crois que ce que nous avons ici, c'est que cette espérance et l'idée de prendre pour soi-même comme une réalité maintenant, avec l'idée d'une complète réalisation à l'avenir. Dieu avait gardé la promesse d'un héritage en lui donnant un fils. Mais ce n'est pas encore un peuple, mais c'est le début. Et donc, il a reçu l'héritage en regardant ce fils, Isaac, qu'il a reçu. Et puis, il sait qu'il y a autre chose qui est le vrai repos qui attendait, qui, lui, il a salué de loin. Il n'a jamais eu. Parfois, ce sont ces petites choses-là qui sont les garanties de quelque chose de plus grand à l'avenir. La foi nous sauve, l'amour nous aide à vivre avec les autres et l'espérance nous garde sur les rails. Notre héritage, la vie éternelle, la rédemption de nos corps nous aide à avancer. Et donc, nous regardons vers l'avenir. Et puis, il y a ici au verset 18, il dit « notre seul refuge ». Notre espérance est notre seul refuge. Nous ayons, au verset 18, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ah, combien de fois j'entends les chrétiens dire, pourquoi Dieu il n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il n'avance pas les choses? Et notons bien, c'est la même chose avec cette Église qui a besoin de persévérance pour aller jusqu'au bout. Et ce que nous remarquons, c'est que, et donc, que faisons-nous? Nous saisissons comme seule espérance, disons, nous saisissons comme notre seul refuge cette espérance qui nous a été proposée. Cette espérance se tourne vers l'extérieur, par vers l'intérieur, nos seules espérances est de saisir l'espérance que nous avons en Jésus. Okay. Seule espérance. Abraham, 75 ans, pas d'enfants, pas de pays, vivant sous une tente. Espérance. Abraham, 99 ans, pas d'héritier, une femme de 90 ans. Il vit dans l'espérance. Okay. Abraham, à Moria, son seul fils, sur un autel, lié par lui, son couteau prêt à la main, son seule espérance, c'était que Dieu allait ressusciter le Fils, le seul et unique qu'il allait tuer. Puisque c'est notre seule espérance, elle nous aide à rester fidèles dans les difficultés de tous les jours. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Il n'y a pas 10 000 options. C'est notre seul refuge. C'est notre seul avenir. C'est celui que nous saisissons. C'est notre ancre. Et vous savez ce qui fait l'ancre? L'ancre agit pour qu'on ne dérive pas. L'ancre nous aide à rester tranquille dans la tempête ou de ne pas aller où on ne veut pas aller quand nous sommes sur la mer. Et puis, dernière chose, c'est la septième chose que nous apprenons au niveau de l'espérance. Je sais que vous les avez comptées, vous avez appris par cœur et vous vous réjouissez de partager avec tous ces sept choses, mais vous pouvez écouter le lien qui est là. Mais la dernière chose que nous avons, il dit, c'est un accès à Dieu. Un accès à Dieu. Et ça, c'est la septième chose que nous voyons. Il finit en disant que Jésus est entré dans le temple. Jésus est parti et entré dans le temple céleste, tabernacle céleste, pour être dans le Saint des Saints. Okay? La présence de Dieu, de vivre avec lui. Et vous savez, si vous êtes en Christ Jésus, comme Randy a lu notre passage d'Éphésiens chapitre 1, si vous êtes en Christ, ça veut dire que vous êtes entré dans la présence de Dieu lui-même et que sa présence est entrée en vous par le Saint-Esprit. Jésus entre dans le lieu, le Saint des Saints du tabernacle céleste, et là, nous vivons avec lui. Vous savez, il dit ici, « Et donc, nous attendons avec patience. » Il dit pas « Nous attendons avec passivité. » Il dit pas que nous attendons avec résignation. Il dit pas que nous sommes dans la capitulation. Il ne dit pas que nous vivons dans la défaite et la démission. Il dit que nous vivons dans l'espérance. Et ce que nous avons donc, c'est nous avons besoin de persévérance. Vous avez une seule foi, vous avez un seul Seigneur, vous avez un seul baptême, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul corps, il y a d'autres encore que j'ai oubliés, mais il y a aussi une seule espérance. Et nous marchons sur cette espérance pour vivre éternellement dans la présence de notre Dieu. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela quand vous vous sentez découragé. N'oubliez pas cela quand vous êtes tenté. N'oubliez pas cela quand vous êtes seul. Okay? N'oublions pas qu'il y a une espérance éternelle qui est l'ancre de notre âme et nous ne saisissons avec toute notre force.